a écrasé en quart l'américaine Coco Gauff, numéro 3 mondial. Très bonne journée sur RFI, elle continue avec Accent d'Europe.
C'est tout.
18h10, 19h, c'est Topette, la quotidienne de Radio G. Présentée par Pierre Benoît.
Premier plan vous manque, rassurez-vous, jeudi, Mathéo qui n'a pas pu diffuser toutes ses interviews hier lors de l'émission spéciale Premier plan avec Radio Campus Angers, les diffusera jeudi prochain dans Topette, tout simplement. Mais en attendant, on a deux émissions à découvrir. Mercredi, demain, nous serons avec le Palace Comédie. Benjamin et Nathan nous feront l'honneur d'être avec nous en studio. Et ce soir, nous sommes avec les Folies Angevines. En tout cas, on est avec la présidente de l'association des Folies Angevines. On a l'occasion de parler de la programmation. Elle s'appelle Anne Beaulieu, quand même la représentée, mais tout à l'heure on lui laissera la parole. Et on va parler aussi de stages voilà, que proposent les Folies Angevines, des masterclass. Je suis très curieux d'en apprendre davantage, j'ai le petit flyer sous les yeux, on en parle dans quelques minutes. On aura aussi la Daronne Angevine autour de 18h30, la Minute Biodive en fin d'émission. Et entre tout ça, on va parler d'un sujet d'actualité avec vous, Sidonie et Loris. Bonsoir Sidonie.
Bonsoir.
Et bonsoir Loris.
Bonsoir.
De quoi parle-t-on dans votre papier de tout à l'heure?
On va parler de la tragique mort de nourrissons à Angers. C'est pas un sujet très, très joyeux, mais bon, c'est important d'être renseigné là-dessus.
Voilà, en lien avec une contamination d'une bactérie qui s'est dissimulée dans des poudres de lait. On en parle tout à l'heure. Topette, c'est parti pour ce soir.
18h10, 19h, Topette, avec Pierre Benoît.
Il en est question, les actus, il en est question aussi avec le Flash Info, maintenant avec toi Kelly, ce soir.
J'ai l'info. L'actualité à Angers et dans le département de Maine-et-Loire, sur Radio G.
Connaissez-vous le Boulki? Eh bien, si ce n'est pas le cas, c'est normal, car c'est un jeu totalement inventé par Daniel Grégoire, membre de la société La Fraternité. Comme son nom l'indique, Boulki, c'est la contraction du Molki et de la boule du fort. Il mélange également les règles des deux jeux avec quelques différences par-ci par-là. Par exemple, dans le Boulki, il y a 13 quilles au lieu de 12, comme au Molki. Et le concept plaît à pas mal de monde. Ceux qui ont eu l'occasion de tester ont tous dit que l'ambiance du jeu était agréable et sans prise de tête. Tous ceux qui sont venus veulent revenir, d'après le créateur. Pour vous dire, même les pompiers de Fontaine-Guérin qui à la base sont passés pour donner leur calendrier annuel ont fini par se prêter au jeu. Et surtout, ne croyez pas que votre maîtrise du Molki ou de la boule du fort va vous donner un avantage, car apparemment, le Boulki n'est pas si simple. Un jeu plus difficile, certes, mais il est plus rapide, avec plus de points, et surtout, c'est un jeu de quilles. En d'autres termes, c'est parfait pour les jeunes qui cherchent à avoir une grande dose de dopamine d'un coup. En tout cas, moi, je sais pas vous, mais ça me tenterait bien de tester un jour juste pour voir. Pour rentrer dans un registre un peu plus sérieux, à un peu moins de 2 mois avant les municipales 2026, une nouvelle liste vient se déclarer près d'Angers, avec à sa tête 2 étudiants, Nouk Glemarek et Nicolas Cuisinier. La campagne s'appelle le Nouveau Parti Anticapitaliste Révolutionnaire, soit le NPAR. Cette liste a pour volonté, je cite, de porter la voix des exploités et des opprimés pour que celles et ceux qui produisent tout puissent décider de tout. Et surtout, de lutter contre la montée de l'extrême droite et de ses idées réactionnaires. D'après un communiqué de presse de ce lundi 26 janvier, la liste sera composée de travailleurs, de travailleuses et de jeunes. On termine avec une petite nouvelle sportive. Bonne nouvelle pour nos patineurs angevins, Camille et Pavel Kovalev, qui viennent d'avoir la confirmation de leur participation à l'épreuve des couples au JO 2026 de Milan-Cortina. Jusqu'à maintenant, ils étaient encore dans le doute à cause de leur 4e place lors du tournoi de qualification en septembre dernier à Pékin. Ils ont réussi à participer grâce au forfait du couple ouzbek, arrivé à la 3e place, qui ne patine plus ensemble aujourd'hui. Apparemment, le malheur de l'un fait le bonheur des autres. Les quintuples champions de France débuteront donc la compétition le 6 février avec l'épreuve par équipe.
J'ai l'info sur Radio G.
Merci beaucoup Kelly. Avant d'accueillir notre invité de la soirée, on vous rappelle cette scène ouverte de poésie proposée par le Slam Poesy Club. C'est au Welsh, c'est le mercredi 4 février 2026, bien évidemment, 25 places Louis Imbac. Pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas le Welsh, les inscriptions sont à partir de 19h, début des déclamations poétiques à partir de 20h, tout simplement entrée libre, avec consommation, hein, puisque vous êtes dans un bar, avec modération, bien évidemment. Maintenant, on accueille notre invité.
L'invité de Topette sur Radio G.
Et notre invitée s'appelle Anne Beaulieu, elle est présidente des Folies Angevines. Bonsoir, madame la présidente.
Bonsoir, monsieur le journaliste.
Ça va bien?
Oui, ça va bien.
Ouais, on s'est pas revu, je crois, en 2026, donc meilleurs vœux.
Tous mes vœux également.
Est encore temps, on a jusqu'à la fin du mois de janvier, je crois. On va parler ensemble, bien évidemment, de la programmation des Folies Angevines, mais aussi des stages qui ont lieu en ce moment. Mais avant toute chose, comment se sont passées les fêtes de fin d'année aux Folies Angevines? Tout a été bien? Est-ce qu'on a eu des événements spéciaux pour les adhérents et adhérentes de l'asso?
Alors, au-delà des adhérents et des adhérentes, il y a eu un très chouette réveillon aux Folies Angevines qui était ouvert à tout le monde. J'y ai participé et c'était vraiment très très sympa.
Qu'est-ce qui était proposé? On avait juste une soirée où les gens se retrouvaient, une restauration peut-être?
Il y avait un dîner-spectacle autour d'un cabaret, un spectacle-cabaret, et ensuite on a fini en dansant. Voilà, une jolie soirée, vraiment.
Ouais, j'espère qu'il y a des vidéos qui ont tourné sur les réseaux sociaux.
Pas
quand
sûr.
Même, ah, pas sûr,
pas
non.
Sûr.
C'est resté confidentiel. Fallait,
ces soirées-là, oui.
Bon, en tout cas, le début d'année se passe plutôt bien du côté des Folies Angevines.
Oui, 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 ça se passe bien avec beaucoup d'activités, plein d'énergie, la préparation du festival de printemps. Et puis, comme tu disais, des stages là, qui se déroulent depuis début janvier et jusqu'à fin mai.
Oui, le printemps des Folies, on commence déjà à en parler, c'est un grand printemps.
C'est un grand printemps qui dure 2 mois et 1 semaine. Et au cours duquel il y a à peu près 160 représentations de tous nos ateliers.
Voilà, qui sont les restitutions en fait des personnes qui participent, voilà, aux ateliers dans les différentes catégories, dans les différentes disciplines, parce que théâtre, danse, chant, comédie musicale et stand-up, je crois que c'est les...
Théâtre d'improvisation aussi.
Théâtre d'improvisation. Oui. Qu'est-ce qu'on ne fait pas en fait dans ces ateliers?
Qu'est-ce qu'on ne fait pas? On fait tout.
Ben oui.
On fait tout. À peu près toutes les disciplines de l'art du spectacle sont représentées. Et depuis le début septembre, tous les ateliers ont pour finalité de monter un spectacle qui sera produit dans le cadre du festival Le Printemps des Folies. Donc autant vous dire, Pierre-Benoît, qu'on bosse dur.
Et oui, bah oui, c'est forcément c'est le gros temps fort. Mais ça, on aura l'occasion d'en reparler, bien évidemment.
Voilà.
Alors, puisqu'on parle des ateliers, peut-être qu'on peut parler de ces stages, justement, qui vont avoir lieu. C'est-à-dire que si on a loupé le coche, si on n'a pas pu s'inscrire, si je comprends bien, hein, tu me reprends, si on n'a pas pu s'inscrire à un des ateliers, les Folies Angevines proposent des stages, notamment pendant les périodes de vacances, c'est ça?
Voilà. Pas seulement ça. Les stages, ils peuvent avoir lieu aussi les samedis. Ou les week-ends. En fait, il y a des stages d'une journée, 2 journées ou 5 jours. Alors effectivement, 5 jours, c'est pendant les vacances scolaires. Il y a des stages en théâtre d'improvisation, en théâtre, en danse, en humour. Et ça permet de découvrir une nouvelle discipline ou de l'approfondir. Alors effectivement, si on a loupé le coche, c'est une très bonne manière d'entrer en relation avec les Folies Angevines et de découvrir nos intervenants avant de s'inscrire pour l'année prochaine.
Alors on sait qu'il y a une limite, vous avez été un petit peu obligé de fixer des limites parce qu'il y avait beaucoup de personnes qui venaient s'inscrire pour adhérer du coup aux différents ateliers. Pourquoi finalement proposer en plus des stages, on pourrait pas juste pousser la jauge?
On a un problème de place. On a déjà 5 ateliers qui ne peuvent pas avoir lieu chez nous, qui sont externalisés sur d'autres sites. Donc l'idée c'est pas forcément de grossir plus. C'est de pouvoir bien fonctionner avec l'effectif qu'on a. On a quand même 540 adhérents. C'est déjà du travail à gérer. Et puis vraiment, il y a un problème, enfin un problème d'espace. Non, on est bien dimensionné pour ce volume-là.
Donc les stages, ça permet de compléter par rapport à la voilà. demande débordante.
Ça permet d'accueillir des personnes qui sont pas adhérentes chez nous. Et si on prend les 2 dernières années, 80% des gens qui viennent en stage ne sont pas adhérents régulièrement. C'est aussi des histoires d'emploi du temps. C'est pas juste, j'ai pas eu ma place. C'est que on peut pas toujours consacrer une soirée par semaine à une discipline de loisirs. Donc le stage, il permet de le pratiquer différemment.
Justement, tu commences à parler des personnes qui font ces stages habituellement. Donc j'ai l'impression qu'il y a des statistiques qui ont été établies,
oui.
Peut-être par l'INSEE ou peut-être simplement en interne au Folies Angevines. Qui sont les personnes qui participent à ces stages? Tu parles des adhérents, adhérentes, des personnes extérieures aussi, des personnes peut-être totalement novices qui veulent s'essayer, ou alors plutôt des personnes qui sont peut-être en train de se peaufiner, qui pratiquent le théâtre ou n'importe quelle autre discipline par ailleurs?
Alors, quand c'est des stages découvertes, on l'affiche. Donc, effectivement, ce sont des gens qui connaissent pas du tout la discipline et qui ont envie de la découvrir. Ça arrive pas mal en improvisation, notamment. C'est une discipline qui interpelle. On sait pas trop ce qu'il y a dedans, en quoi ça consiste. Donc, voilà, on a beaucoup de stages en théâtre d'improvisation qui sont proposés. On en a 6, je crois, à venir. Sur une journée, 2 ou 5 jours. Et puis, il y a quelques stages où là, on demande un prérequis. Et ce sont des gens qui pratiquent déjà la discipline, mais qui ont envie de l'aborder différemment. Puis après, il y a des disciplines qui en complètent d'autres. Si on fait de la comédie musicale, c'est intéressant de prendre un stage de danse pour peaufiner un peu la danse.
Évidemment.
Si on fait du théâtre, un stage d'impro, ça peut aussi venir nourrir. Et vice versa, si on fait de l'impro, un stage en théâtre, c'est une manière d'aborder avec un angle un peu différent et d'enrichir ce qu'on fait déjà.
Alors théâtre, impro, danse, humour, ça ok, je vois les disciplines qui sont déjà pratiquées au Folies Angevines. Je vois aussi développement perso. Alors là,
oui.
C'est quoi? C'est on se sert de la scène comme outil pour d'autres applications?
C'est une nouveauté cette année. Tony nous propose, qui est un intervenant en improvisation, qui a travaillé aussi sur tout ce qui est développement personnel, et il met les techniques du théâtre d'improvisation au service du développement émotionnel. En fait, parce que on sait bien que le théâtre, le fait de jouer devant des spectateurs ou d'exprimer des émotions qu'on garde un petit peu enfouies au fond de soi dans la vie quotidienne, cette discipline du théâtre d'improvisation peut permettre de lever des verrous, de découvrir des choses sur soi et de les partager en tout cas autrement avec l'environnement et les autres.
Mais bien sûr, ouais.
Voilà.
Tony, j'en profite pour rappeler qu'il est aussi animateur d'improstation un jeudi sur deux à 20h sur le 101.5 FM. Voilà, si vous êtes intéressé par ces stages et que vous voulez savoir à qui vous avez affaire comme coach, écoutez l'émission, peut-être que ça vous donnera un avis. Je me tourne vers les personnes avec moi en studio autour de la table sur ces propositions de stages. Alors, je sais que Sidonie a pratiqué la danse à son temps, peut-être que ça fait quelques temps maintenant. Est-ce que ce type de configuration, des stages comme ça, courts, très ponctuels, ça peut t'intéresser, être un format intéressant?
Et ça peut clairement m'intéresser, oui, surtout le stage de danse. J'avoue que quand je l'ai entendu, j'ai noté dans mon téléphone. Mais du coup, oui, c'est sûr qu'un petit stage comme ça, c'est toujours la bienvenue. Ça fait un petit rappel, que ça soit même l'humour ou des choses comme ça. Comme vous l'avez dit, ça peut aussi venir compléter certaines compétences. Du coup, ça va vraiment nous valoriser et nous créer une expérience qui va juste compléter notre carrière. Du coup, c'est hyper bien.
Et par exemple, Kelly, sur ces stages adultes de développement perso, d'aisance orale, acquérir des compétences, parce que toi, tu pratiques du coup la radio. Est-ce que ça aussi, ça te paraît pertinent d'avoir ce type de proposition?
Évidemment, pour moi, c'est extrêmement pertinent. Et même si on n'est pas du tout dans le monde de la radio ou même du journalisme en général, je trouve qu'être à l'aise à l'oral, c'est une compétence qui est presque maintenant essentielle, en fait, notre vie quotidienne, pardon. Et pour moi, ce genre de stage, c'est super important pour avoir une première immersion dans ce domaine-là.
Bon, en tout cas, les demandes ne manquent pas, même ici en studio, hein, on le voit bien. Alors, pour le contour pratique, est-ce que c'est payant? Est-ce qu'on doit réserver? Là aussi, il y a des jauges, j'imagine.
Alors oui, bien sûr, je vais donner quelques détails pratiques. Juste, je voulais préciser, improstation dont tu parlais tout à l'heure est régulièrement enregistrée au Folies Angevines. Voilà, on les accueille avec grand plaisir. Les stages, oui, ils ont un coût forcément. Ils ont un coût. C'est 70 euros pour les gens qui ne sont pas encore adhérents la journée. Ce sont des stages qui durent une journée, c'est 6 heures de cours. Voilà. Donc c'est vraiment du concentré, du condensé. Il y a des stages pour enfants aussi. On n'en parlait pas. On parle des adultes, mais il y a des stages pour les jeunes, notamment pendant les vacances de février. Stage théâtre ou improvisation pour les enfants. Ça, c'est super intéressant avec la créativité qui est encore très débridée chez eux.
Oui, voilà. Puis même au-delà de la créativité, c'est important d'être à l'aise avec soi, parce qu'on voit tous les problèmes que posent notamment les réseaux sociaux. Là, pourrait en parler avec l'interdiction qui est en cours, hein, pour les moins de 15 ans. Donc ça aussi, ce sont des belles propositions pour être bien avec soi. Comment on retrouve ces informations-là, Anne?
Alors, ces informations, on les trouve sur le site des Folies Angevines, que vous trouvez très facilement sur Internet, et en choisissant l'onglet « Stage et atelier ».
Voilà, ça c'est pour la partie stage atelier. On parle de la programmation dans quelques instants des Folies en Juin. Oui, parce que faut rappeler, il y a le côté association qui gère un petit peu la partie associative, hein, les adhérents,
l'enseignement finalement.
Et la programmation de la salle, et ça tu vas pouvoir nous en parler aussi dans quelques instants. Mais avant tout ça, on écoute Sidonie et Loris pour ce papier autour d'un sujet d'actualité qui est en ce moment.
Et oui, triste nouvelle car c'est fin décembre qu'un nourrisson de 27 jours est décédé à Angers. Sa mère a indiqué que l'enfant avait été nourri avec une poudre pour bébé. Cela intrigue car c'est un produit d'une marque dont certains lots ont récemment été rappelés par le gouvernement. La justice a donc ouvert une enquête judiciaire pour déterminer les causes du drame. Mais malheureusement, ce décès s'ajoute à celui d'un autre bébé, mort début janvier à Bordeaux, qui avait lui aussi consommé un lait en poudre concerné par des rappels. Mais prudence, car à ce stade, aucun lien n'a été formellement établi entre le produit et les décès, selon les autorités sanitaires et judiciaires.
Maintenant, on va creuser le côté scientifique. Le rappel de lait infantile en France et à l'international est causé en raison d'un risque de contamination par le céréulide, une toxine rare, mais potentiellement très dangereuse pour les nourrissons. Le céréulide est une toxine produite par certaines bactéries, principalement Bacillus cereus. Cette bactérie peut se développer lors de problèmes d'hygiène ou de conservation dans les chaînes de production alimentaire. La toxine résiste à la chaleur. Même si le lait est chauffé ou reconstitué avec de l'eau chaude, le céréulide n'est pas détruit. Il agit comme un poison cellulaire. Il perturbe le fonctionnement des mitochondries qui sont comme les centrales énergétiques des cellules. Résultat, l'organisme n'arrive plus à produire suffisamment d'énergie, ce qui provoque vomissements rapides, diarrhées sévères et dans de rares cas, des atteintes beaucoup plus graves. Chez un bébé et encore plus chez un nouveau-né ou prématuré, le foie et les reins sont immatures, donc les capacités de détoxification sont limitées et la déshydratation peut s'installer très rapidement. À ce stade, la justice parle d'une possible contamination sans lien de causalité formelle établie. Mais scientifiquement, un décès est possible si un nourrisson fragile ingère une quantité suffisante de céréulide. La combinaison entre la toxicité élevée de la substance et l'immaturité des organes peut conduire à une évolution fulgurante malgré une prise en charge médicale. N'oubliez pas, chez le nourrisson, le moindre incident alimentaire peut avoir des conséquences majeures, d'où l'extrême prudence des autorités sanitaires.
Et oui, cette affaire a des conséquences car depuis début janvier, plusieurs fabricants de lait infantile, dont de grandes marques, ont retiré des lots de lait en poudre du marché. Pourtant, le ministère de la Santé insiste, pour lui, les produits rappelés ont été retirés et aucune preuve de danger n'a été pour l'instant confirmée à ce jour. Mais des organisations de consommateurs critiquent l'État et les industriels pour leur mauvaise gestion. Elles estiment que l'alerte est arrivée beaucoup trop tard et demandent une enquête plus large que le seul cas en cours. Du côté des politiques, certains réclament une meilleure surveillance des chaînes d'approvisionnement et des normes plus strictes pour davantage protéger les nourrissons. Le domaine des produits pour enfants reste tout de même très surveillé. La dernière affaire marquante impliquant des nourrissons remonte à 1972 avec l'affaire du talc Moragne et la mort de 36 enfants.
Donc face au risque de présence de céréulides dans certains laits infantiles, les autorités sanitaires ont mis en place des mesures immédiates de protection. Première règle assez logique, ne plus utiliser les laits appartenant au lot appelé. Les boîtes concernées doivent être isolées ou conservées si un bébé a présenté des symptômes et signalé aux autorités ou aux services consommateurs des marques. En cas de consommation par un nourrisson, l'attitude dépend des symptômes. S'il n'y a aucun signe, il n'y a pas lieu de s'alarmer. En revanche, en cas de vomissement, diarrhée, fièvre ou fatigue inhabituelle, il faut consulter rapidement un médecin. Pour remplacer le lait retiré, la Société française de pédiatrie recommande des laits infantiles alternatifs, validés et régulièrement mis à jour, afin d'assurer la continuité de l'alimentation des nourrissons en toute sécurité. Côté prévention, les industriels ont renforcé les contrôles microbiologiques et d'autres rappels restent possibles. Les autorités surveillent étroitement la situation et rappellent que ces mesures sont préventives. Aujourd'hui, les enquêtes sont toujours en cours pour déterminer un éventuel lien entre les laits à appeler et les décès des nourrissons.
Merci beaucoup Laurice et merci Sidonie. Effectivement, gardez vos boîtes si jamais vous êtes malheureusement concerné, parce que ça pourra servir justement pour les analyses, pour faire l'enquête du côté du ministère de la Santé. Et surtout, bah, appelez le 15 hein, si jamais vous avez un doute. C'est le meilleur réflexe à avoir, vous n'embêterez personne. Vaut mieux ça que l'inverse, qu'il arrive un malheur. On pourra en parler tout à l'heure avec Anaïs, la daronne angevine, de ce qu'elle en pense sur la situation. Mais avant tout ça, on retourne avec notre invité de la soirée.
Topette avec Pierre Benoît.
On n'est pas allé très loin à chercher nos invités, puisque du coup, même partenaire de l'émission, on est avec les Folies Angevines, avec toi, Anne Beaulieu, la présidente. Je ne vais pas redire madame la présidente.
Non,
hein,
s'il
voilà.
te plaît.
Tout à l'heure, on a parlé.
Simplicité.
Voilà, on a parlé des masterclass, des stages et ateliers. Mm-hmm. On pourra redonner les infos pratiques en fin d'émission. Mais avant tout ça, nous allons parler un petit peu de la programmation des Folies Angevines, puisque, bah, comme d'habitude, elle est riche, elle est dense, elle est variée, elle est locale aussi. Locale et puis éclectique. Enfin, tous les qualificatifs plutôt. Positif qu'on pourrait y mettre. Alors, il y a plein de dates, je ne sais pas par laquelle tu souhaiterais commencer. Je vois qu'il y a de l'impro, il y a des jeux, il y a du cabaret, beaucoup de cabaret ces derniers temps aux Folies Angevines. Il y a l'Asta aussi qui est par là, et puis il y a même un peu de poésie d'une certaine façon.
Oui, alors en fait, finalement, il y a deux lieux qui organisent des événements aux Folies Angevines, puisqu'on a deux sites de chaque côté de la rue. Donc, dans la salle de spectacle qui est vraiment dédiée au spectacle, il y a effectivement un florilège de spectacles à venir. On est quel jour ? Je suis perdue. On est mardi. Donc mardi. Dès demain, le plus petit cabaret du monde, un petit cabaret avec deux jeunes artistes, chanteuses et danseuses, qui vont proposer des reprises de chansons et des scènes bien connues de comédie musicale pour un cabaret intimiste et tout en douceur. Peut être très sympa. On va retrouver aussi une nouvelle création qui a déjà donné quelques représentations, c'est Black Cabaret, dans la pure tradition du jazz cabaret de Chicago, avec des professionnels qui nous permettent de vivre un show vraiment très intense et très très sympa. Et puis, si on va un peu plus loin, 1er février, un joli spectacle musical avec Marine, qui nous dit « Je suis, donc je chante ». Un one-woman show musical, on peut appeler ça comme ça, en hommage aux années 90, avec un petit passage par Disney, enfin, un truc assez chouette. Voilà, je peux aller un tout petit peu plus loin. Le 2 février, juste le lendemain, on aura la première des Fugueuses, qui va se produire aussi le 10 février. C'est une pièce de théâtre, une comédie pleine d'énergie, l'histoire de deux femmes dont la vie va prendre un virage un peu différent, une comme une ode à la liberté et au courage de changer de vie. Et puis on va retrouver aussi dans la suite nos passeurs de l'impalpable, ces improvisateurs qu'on aime beaucoup accueillir et qui font des improvisations longue forme, des improvisations qui durent une heure et quart à partir des mots du public. C'est assez remarquable. Si vous ne connaissez pas les passeurs de l'impalpable, je vous invite vraiment à venir les voir aux Folies Angevines. Et puis on retrouve Ra aussi, le dîner de con qui a fait un tabac là sur la fin d'année. Il redonne quelques représentations en février. Si vous l'avez loupé, ça vaut vraiment la peine de venir les voir.
C'est un peu comme les stages, ouais, par rapport aux ateliers. C'est on fait des extras parce qu'on peut pas contenter tout le monde.
Non, oui, voilà, on ouvre à nouveau les portes. Ça a très très bien marché. Alors attention, c'est pas des stages, c'est vraiment des professionnels sur scène.
Oui, hein. Non, c'est, je faisais un comparatif. Oui, non,
Benoît,
non.
Attention.
Une programmation. Donc là, c'est la programmation, voilà, des professionnels. On parle pas.
C'est la programmation des professionnels. Voilà.
Des ateliers. Ou quoi que ce soit. Voilà. Bon, en tout cas, c'est pareil. Hein. J'imagine que les jauges sont pleines avec autant de spectacles à chaque fois. C'est qu'il y a le public qui répond présent.
Le public répond bien présent, tout à fait. Tout à fait. Les créations sont très, très bien accueillies par le public. Et on a plaisir à ouvrir nos portes et à remplir les salles.
Et est-ce qu'on sait si ce sont des personnes fidèles qui reviennent d'une fois sur l'autre, ou à chaque fois on voit des nouvelles têtes? Je ne sais pas si tu vas certainement pas à tous les spectacles, mais
non,
peut-être que vous avez une idée de la question.
Pour le coup, là, on n'a pas fait de statistiques, mais il y a vraiment les deux. Il y a les gens qui viennent parce qu'ils aiment la salle et qu'ils connaissent et qui suivent sa programmation. Et puis après, il y a les spectacles qui attirent. Le dîner de con, on a eu une telle affluence que forcément, il y a plein de gens qui ne connaissaient pas et qui sont venus pour la première fois, par exemple.
Oui, donc c'était l'occasion, ouais, voilà, de faire découvrir le lieu, s'il fallait encore le faire découvrir. Il y a même les deux lieux. Hein.
Voilà, alors de l'autre côté, on est en train de développer aussi une programmation. Là, c'est une programmation plutôt autour d'événements. On organise des blind tests, des karaokés, des soirées-jeux, et puis des concerts aussi. C'est plutôt pour faire émerger des gens. C'est plutôt une scène émergente en face. des scènes ouvertes de chansons. Là, on a le 7 février une cover party avec des musiciens qui vont se partager la scène sur des reprises acoustiques. Ça peut être très sympa aussi. En avril, on prépare un autre concert. Enfin voilà, il y a des tas d'événements et tout ça, on le retrouve aussi sur notre site. Et alors là, c'est pour le coup pas l'onglet atelier, mais c'est l'onglet programmation. Voilà. Et là, vous avez les deux lieux qui sont fusionnés. On voit tout, toute la programmation est chronologique. Ce qui se passe aux Petites Folies, c'est des tarifs, soit c'est une entrée libre et une sortie au chapeau. Il y a aussi beaucoup, j'ai oublié de le dire, de spectacles d'improvisation. Parce que ça fait partie de la pédagogie de nos ateliers d'impro. Pour bien improviser, pour savoir ce que c'est et comprendre, il faut faire de la scène. Donc on a beaucoup de restitutions d'ateliers et là c'est une sortie au chapeau, une entrée libre. Sinon c'est des billetteries très raisonnables qui permettent de passer un bon moment sans trop taper dans le porte-monnaie.
Exactement, on peut dire que les Petites Folies d'une certaine façon c'est un laboratoire à divertissement,
oui.
Spectacle et puis
tu fais bien d'en parler, j'oubliais quand même que tous les jeudis soirs on a Bébé Blague, ce sont 10 humoristes qui se succèdent sur scène pour tester leurs blagues avant de les produire sur des scènes un peu plus confortables pour eux. Et c'est très sympa à venir suivre. Là aussi, c'est une entrée libre et une sortie au chapeau tous les jeudis soirs.
Un seul et même onglet pour deux endroits. Alors,
tout
si vous
fait.
Êtes d'un côté de la rue à attendre et qu'il n'y a rien, qu'il n'y a pas de lumière, regardez de l'autre côté, parce que c'est peut-être juste aux Petites Folies ou aux Grandes Folies.
Moi, en général, il y a la lumière des deux côtés et on fait ping-pong, on renvoie les gens.
Oui, bah oui, c'est vrai qu'il y a toujours du monde pour accueillir. Anne, merci, tu restes avec nous, on redonne toutes ces infos tout à l'heure en fin d'émission. On fait un petit détour maintenant par la chronique de la Daronne Angevine.
Des enfants, des parents, des cris, des pleurs, du brouhaha, des sorties, des bons plans et des bons moments en famille. Avec la Daronne Angevine.
Qu'est-ce que la famille ? Qu'est-ce que ça veut dire faire famille ? Faire famille, ce n'est pas juste partager le même sang. Faire famille, c'est se soutenir, s'écouter, s'aimer malgré nos efforts, nos erreurs, nos défauts. C'est un lien qui se construit, un lien qui protège, un lien qui rend plus fort. Si seulement. La famille au sens du sang. Les parents, les enfants, les frères, les sœurs, les oncles, les tantes. Cette famille qu'on ne choisit pas, mais à qui on devrait tout pardonner. Dans notre société, il y a cette idée presque sacrée, la famille passe avant tout, parce que c'est le sang, parce que c'est comme ça, parce que on n'abandonne pas sa famille. Et pourtant, combien de fois avons-nous vu des gens blessés par leur propre famille ? Combien de fois avons-nous entendu, face à une parole humiliante, un geste cruel ou cette phrase magique qui excuse tout ? « Oh, mais tu sais comment il est, ton père ? Oh non, mais c'est ta tante, hein, tu sais bien qu'elle voulait pas te faire de mal. » Et c'est ta mère, tu peux pas lui en vouloir. Pourquoi est-ce qu'on accepte ça ? Pourquoi est-ce que, sous prétexte que c'est la famille, on tolère des comportements qu'on n'accepterait jamais de qui que ce soit d'autre ? Il y a des gens malveillants, malhonnêtes, désagréables, toxiques même, et on continue à les voir, à les fréquenter, à leur confier nos enfants, parce que simplement c'est la famille ? Pourquoi ? Pourquoi la famille est-elle mise sur un piédestal au point d'écraser tout le reste ? Le respect, la dignité et parfois même notre santé mentale. On a créé une règle étrange. Dans la famille, il n'y aurait pas de limite. Comme si ce lien de sang autorisait ce que l'amitié, l'amour ou même le simple respect interdisent. Et si c'était l'inverse ? Et si la famille devenait ce lieu plus exigeant en matière de respect ? Si la famille devenait le sanctuaire de la bienveillance, de l'écoute, de l'entraide et du soutien ? Parce que le sang crée un lien, il ne crée pas un droit. Pas le droit de blesser, d'humilier ou de détruire. Et peut-être que la vraie loyauté familiale, ce n'est pas de tout accepter, mais d'exiger le respect où il devait être le plus naturel. Et puis, il y a cette autre famille. La famille qu'on se choisit. Ses amis qui deviennent frères, sœurs, ses voisins, ses complices, ces gens qui nous connaissent vraiment et qui nous aiment malgré nos défauts. Avec eux, pas besoin de règles de sang, pas besoin d'excuses. On se respecte, on se soutient, on se sait. Et pour eux, on ferait tout, parce que eux, on les a choisis. Alors peut-être que la vraie famille, c'est celle qui nous rend plus forts et plus heureux. Ce n'est pas seulement celle qu'on a reçue à la naissance. C'est celle qu'on se construit et qu'on choisit et qu'on aime vraiment.
Bravo! Bravo, j'ai presque envie de t'applaudir, Anaïs, pour
je t'en prie, vas-y.
Pour cette, bah, on va l'applaudir, du coup, pour cette très belle chronique, effectivement.
Merci.
On pourrait dire qu'il y a le bendo aussi qui compte, malgré tout. Voilà, on a la famille qu'on a et la famille qu'on se crée, effectivement.
Exactement.
Et c'est très beau ce que tu dis, très juste, effectivement, de, et important de préciser, parce qu'on sait qu'il y a aussi le sujet des violences intrafamiliales qui peut être un
bien
sujet.
Évidemment.
Donc, voilà, c'est pas, il n'y a pas de droit absolu, il n'y a pas de droit de son ou quoi que ce soit. Anaïs, je voulais te faire réagir avant de passer à autre chose par rapport au lait infantile. Alors, on sait qu'il y a le lait maternel et puis le lait en biberon. Toi, ton regard sur la situation actuelle, peut-être que tu avais des conseils, des aiguillages, des choses à apporter?
Alors déjà, c'est dramatique. Ça amène énormément de stress aux mamans que je côtoie et qui sont concernées par le lait en poudre qu'on donne à nos enfants et qu'on donne en pensant être en sécurité. Et en fait, non. Je reviens juste sur ce que j'ai entendu. Effectivement, conserver les boîtes de lait. J'ai entendu aussi qu'on pouvait conserver les couches de nos enfants dans lesquelles il y avait des sels à congeler. Et parce qu'en fait, ils peuvent faire des analyses après si besoin. Voilà. Et sinon, effectivement, vous avez rappelé les informations importantes. Le 15 en cas de doute. Et puis, quand il y a un doute, il n'y a pas de doute, il faut y aller.
Voilà, c'est ce que c'est ça la difficulté, hein, c'est que la toxine apparaît au moment où on met l'eau dans le lait, donc on peut pas trop savoir avant, on peut pas difficilement faire le lien, donc voilà, restez bien informés si vous êtes concernés par le sujet. Merci Anaïs, tu restes avec nous, on va conclure cette émission dans quelques instants, mais avant une petite pause musicale en bon feeling, je vais chercher la traduction de feeling, bon sentiment, voilà, en anglais, good feeling, Florida.
Get a good feeling, yeah. I get a feeling that I never, 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 never had before. No, no, I get a good feeling, yeah. Oh, sometimes I get a good feeling. WhatGossip.com. Now I got a word for your tongue. How many Rolling Stones you want? Yeah, I got a brand new spirit speaking and it's done. Woke up on the side of the bed like I won. Talk like the wind in my chest to that sun. G5 in the U.S. to Taiwan. Now who can say that? I wanna play back. Mama knew I was a needle in a haystack. I'm a body boy, plus way back. I got a feeling it's a rap, ASAP.
Oh, sometimes I get a good feeling, yeah.
The mountaintop, walk on water, I got power, feel so royal. One second, I'ma strike for you, diamond, platinum, no more for you. That adrenaline, never giving in, giving up's not an option, gotta get it in. Witness, I got the heart of 20 men, no fear, go to sleep in the lion's den. That glow, that spark, that crown, you're looking at the king of the jungle now. Stronger than ever, can't hold me down. 100 miles gunning from the pitcher's mouth. Straight gang face, it's gang day. See me running through the crowd, feeling melee. No trick plays, I'm Bill Gates. Take a genius to understand me.
Oh, sometimes I get a good feeling, yeah.
I
get a good feeling, yeah.
Good Feeling de Floraida sur le 101.5 FM. Vous étiez à l'écoute de Topette, enfin vous l'êtes encore pour l'instant, pour les quelques minutes qui arrivent. On va se quitter tout à l'heure avec la Minute Biodive, on va s'intéresser au castor ce soir. Après le canard péteur qui avait beaucoup plu à Sidonie, on va s'intéresser au castor de nouveau. Il y a aussi les chauves-souris, enfin il y a tout ce qu'il faut sur le site internet déjà si vous voulez en apprendre, en découvrir davantage sur la biodiversité en Anjou, car c'est en partenariat avec la LPO Anjou. Mais avant tout ça, on conclut notre émission avec Anne, qui, c'est le canard péteur qui te fait rire aussi.
Non, c'est le pied de ma voisine d'en face.
Ah d'accord, pourtant la table est grande, mais bon, qu'importe. Anne, présidente des Folies Angevines, on a parlé ensemble des stages et ateliers, ce qu'on appelle aussi les masterclass, dans différents domaines, théâtre, impro, développement personnel, enfin tout ce qui est art scénique. Qu'est-ce qui est important de retenir sur ces différents stages ?
Eh bien que ces stages, ils peuvent avoir lieu sur une journée, un samedi, sur un week-end ou sur 5 jours quand ce sont les vacances scolaires, qui sont ouverts aux adultes, aux enfants, qu'ils sont ouverts aux débutants ou aux personnes confirmées, c'est toujours précisé au moment de l'inscription, et que toutes les infos, on les retrouve sur le site des Folies Angevines à l'onglet Ateliers et Stages.
Et c'est donc toute l'année, ça sert à toute l'année, mais dans les trous du planning en fait.
Oui, là il y en a depuis début janvier et nous en avons jusqu'à fin mai je crois.
Voilà, bon bah l'occasion voilà. De rappeler à une autre venue des Folies Angevines, peut-être avec Pauline le mois prochain. Donc ça c'est pour les stages et ateliers, enfin stages, pas les ateliers, des ateliers, hein, on s'est bien compris. Il y a la programmation aussi, les infos pratiques concernant la programmation.
Anne. Eh bien on les retrouve tout pareil sur notre site, mais cette fois-ci sur l'onglet programmation. Et là, vous découvrirez à la fois les spectacles qui ont lieu dans la grande salle de spectacle, Avenue Montaigne, mais aussi tous les événements, improvisation, événements karaoké, blind test, soirée jeu, tout ce qui est organisé en face aux Petites Folies. Tout est dans l'onglet programmation de notre site.
Merci beaucoup Anne d'avoir fait découvrir ça à Loris au moins, car Loris il découvre totalement les Folies Angevines. Une salle de spectacle, je ne sais pas si tu as ça par chez toi dans ta région nantaise.
Non, je pense pas. Enfin, j'en ai pas connaissance en tout cas.
Bon, bah voilà, bah on va te montrer quand on ira chercher à manger ce soir.
C'est tout près d'ici.
C'est juste à côté de la radio. Voilà. Okay. Bon, ça, c'est pour les coulisses internes. Merci beaucoup, Anne. On se retrouve le mois prochain, certainement. Merci, Anaïs. On se retrouve dans 2 semaines. En attendant, on peut te découvrir aussi sur les réseaux sociaux, si on a envie d'échanger avec toi sur le sujet, ou découvrir tes chroniques. Peut-être qu'elles sont en ligne sur
tes
réseaux.
Oui, tout en ligne sur Instagram, la Daronne Angevine.
Voilà, tout simplement. Merci beaucoup. Merci. À dans 2 semaines. À dans 2 semaines, Kelly également. À demain, Sidonie. Prenez soin de vous. On se quitte avec la Minute Biodive. Topette.
Topette.
Avez-vous entendu parler de cette famille de castors qui, sans qu'on leur demande quoi que ce soit, a fait économiser un petit million d'euros à une commune en République tchèque. Laissez-moi vous raconter. Dans une petite commune au sud de la ville de Prague, un projet de barrage était prévu depuis plus de 7 ans afin d'aménager un site protégé en zone naturelle humide. On connaît l'administratif et on comprend que les castors en ont eu marre, eux aussi, d'attendre ce permis de construire qui n'arrivait jamais. Alors fin janvier, en 2 nuits, cette famille a retroussé ses manches et a commencé le travail. Un amas de boue, de pierres et de branches qui a permis de restructurer le cours d'eau sur une zone presque 2 fois plus grande que ce qui était prévu. Mais non seulement notre petite famille de castors a été plus rapide que les humains, leurs barrages sont aussi bien plus efficaces que ceux que l'on produit. Grâce à une ingénierie impeccable, le castor crée son barrage en enchevêtrant tout un tas de branches et de troncs de toutes les tailles. Il rajoute aussi de la boue, des brindilles, des feuilles, des herbes pour colmater les trous dans la digue. Le résultat ? Un barrage plus que solide qui filtre l'eau pour la débarrasser des polluants et des déchets et qui augmente le niveau de l'eau en amont de plus de 80 cm. Un barrage tellement solide d'ailleurs que dans un village du sud de la France, on a essayé de le détruire à coups de dynamite. Et je dis bien essayer. On a réussi à y ouvrir une brèche que les castors ont réparée la nuit qui suivait. Néanmoins, le castor d'Europe, qui est l'espèce que l'on retrouve chez nous en Europe, n'est pas un aussi grand constructeur que son congénère du Canada. Celui du Canada peut abattre des arbres plus grands et plus gros que notre castor et construire de plus grands ouvrages. Le record du plus grand barrage construit se trouve dans la province d'Alberta, au Canada, et il est de 850 mètres, donc presque 1 km, ce qui est énorme. Et alors, pourquoi les castors construisent-ils des barrages ? Les castors sont des mammifères semi-aquatiques. Ils vivent une grande partie de leur vie dans l'eau. On considère qu'ils passent 2/3 de leur temps dans l'eau et 1/3 seulement sur terre. Mais lorsqu'on est un jeune castor et qu'on cherche à fonder sa famille avec sa dulcinée, le marché de l'immobilier n'est pas si facile à naviguer. Il faut souvent se retrousser les manches et construire son propre chez-soi. Le terrier de nos rêves, en d'autres termes. Le barrage est utile en partie pour cela. Sa présence relève le niveau d'eau, ce qui permet au castor de camoufler l'entrée du terrier sous l'eau et d'éviter des visiteurs inopportuns. Mais pas seulement. Comme je vous le disais plus tôt, le barrage fait monter le niveau de l'eau jusqu'à créer des grandes zones humides. Et avec autant d'eau à disposition, c'est le paradis sur terre pour nos castors. Un niveau d'eau plus élevé, ça veut dire plus de territoire, plus de rives où trouver de la nourriture, une température plus facilement régulée l'été et de quoi stocker ses réserves pour l'hiver au fond de l'eau. Et alors une fois que le terrier est construit, toutes les conditions sont réunies pour fonder une famille. Le barrage fonctionne, l'entrée du terrier est camouflée, on est en sécurité. La femelle peut donc s'installer dans la chambre principale et donner naissance aux petits. Le castor d'Europe est une espèce à stratégie K. Ce que ça veut dire, c'est qu'il s'agit d'une espèce qui ne produit que peu de petits par an. Environ 2 par portée et 1 portée par an. Et qui les accompagne jusqu'à la maturité sexuelle, qui peut arriver assez tardivement. 2 ans pour les femelles, 3 ans pour les mâles. On dit donc que le castor d'Europe vit en famille. Un papa, une maman, 2 petits la première année, 2 petits l'année d'après, et ainsi de suite. Et juste avant l'arrivée d'une 3e portée, la maman chasse les jeunes adultes de la première portée du terrier et ils prennent donc leur indépendance et partent à la recherche d'un territoire à conquérir et d'un ou une partenaire pour perpétuer le cycle de reproduction. Et je vous entends déjà me dire, on peut voir des castors en Anjou ? Ce à quoi je vous réponds, si vous êtes chanceux ou acharné, oui, vous pouvez voir des castors en Anjou. Mais plus probablement, vous n'apercevrez que des traces de sa présence. Des arbres à qui il manque l'écorce ou abattus en taille crayon. Des amas de branches taillées sur des cours d'eau. Des traces de pattes aussi. Mais le castor d'Europe est un animal vivant principalement la nuit et surtout dans l'eau. Il est donc très difficile pour nous de le rencontrer. On compte aujourd'hui environ 100 de familles de castors en Anjou suite à des politiques de réintroduction depuis 1985. En effet, il a dû être réintroduit car au début du XXe siècle, il avait complètement disparu du département de Maine-et-Loire et de la plupart des départements français. La dernière population se situait dans la vallée du Rhône. En fait, le castor était chassé depuis des années pour sa fourrure et son castoréum, qui est une sécrétion qui lui sert à marquer son territoire. Cette substance possède des vertus pharmaceutiques et elle était aussi beaucoup utilisée en parfumerie. Désormais, le castor d'Europe est une espèce intégralement protégée depuis 1968. Il est donc légalement interdit de le capturer, de le blesser, de le détenir, de le déranger ou de le tuer. Mais également, il est interdit de toucher à son habitat, que ce soit pour le modifier ou pour le détruire. De nombreux organismes s'appliquent à le protéger, dont la Ligue pour la protection des oiseaux en Anjou, la LPO, une association de protection de la biodiversité dont je fais partie. Pour cela, plusieurs actions sont mises en place. À l'aide d'un réseau de bénévoles et en partenariat avec des acteurs liés aux cours d'eau, comme les syndicats de rivière ou les communautés de communes, des prospections sont organisées sur les cours d'eau du département pour suivre son implantation. Des formations sont aussi organisées pour sensibiliser les professionnels à la présence du castor et à son statut de protection. Et la LPO Anjou anime aussi des sorties nature à destination du grand public et des écoles pour sensibiliser à la présence de ce mammifère et apprendre à cohabiter avec. De mars à juin, c'est d'ailleurs le Printemps des castors, un événement national porté par la SFEPM, la Société française d'études et de protection des mammifères, et auquel la LPO Anjou participe en proposant plusieurs animations pour partir à la rencontre de notre ami le castor. Et alors je vous disais tout à l'heure que vous pourriez voir un castor en Anjou avec un peu de chance ou de l'acharnement. Si vous voulez vous essayer à la prospection, vous pouvez aller chercher des traces du castor à plusieurs endroits dans le département. Au lac de Maine, à l'étang Saint-Nicolas, sur la Loire, sur le Touet, sur le Louet. En fait, le castor d'Europe a recolonisé presque tous les cours d'eau du département. Il ne vous reste plus qu'à enfiler vos bottes imperméables et à ouvrir grand les yeux. Je vous préviens juste, le référent castor de la LPO Anjou n'en a jamais vu un clairement. Alors bonne chance à vous.
My lover. lover's got no money, he's got his strong beliefs. My lover's got no power, he's got his strong beliefs. My lover's got no fame, he's got his strong beliefs. My lover's got no money, he's got his strong beliefs. One more and more, people just want more and more. Freedom and love, what he's looking for. One more and more, people just want more and more. Freedom and love, what he's looking for. Free from desire, mind and senses purified.